Vous êtes bien sur Underscore à l'écoute de Radio Méga, et voilà, je suis inquiète, c'est bientôt l'heure du bac, et moi en terminale, c'est la dernière ligne droite. Attention amis auditeurs, une petite révision s'impose.
Mais Lisa, tu as peur ? Mais non, mais j'espère que tu vas réviser, hein, parce que ouais, quand t'es en terminale, le bac et tout...
Voilà. Ah, non, ça approche en plus.
J'ai bon ou pas ?
Ah, c'est presque ça.
C'est presque ça, parce qu'effectivement, ça parle de terminale, mais... Peut-être pas celui que vous escomptiez, mais tout de suite, mais bonjour en fait, Emmanuel.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Salut Emmanuel.
Bonjour les auditeurs aussi, nous allons effectivement passer à l'actualité.
À l'actu.
Oh, mais c'est les fails.
Alors d'abord, un nouveau terminal, puisqu'on parle pour Windows 10. Et ouais, avec une superbe vidéo publicitaire pour montrer que waouh, il fait maintenant la même chose que le terminal sous GNU Linux. D'ailleurs, Windows va intégrer aussi bientôt un noyau Linux complet pour remplacer le sous-système Linux. Bon, de là à dire que Windows est prêt pour le desktop, contrairement à Linux, je ne sais pas.
Lol.
Voilà. Et puis sinon, oui, effectivement, là, l'effet fail du mois, jingle.
L'effet fail du mois. Fail. L'effet fail. L'effet fail du mois.
Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Une appli pour restaurer la confiance entre propriétaire et locataire risque surtout de donner plus confiance aux propriétaires pour encore plus les exploiter et exploiter les locataires qui auront encore plus peur de ne pas répondre à toutes les exigences demandées pour obtenir un appartement.
Ouais. Des failles critiques dans le protocole WPA3.
Un trou dans le plugin Yuzo Related Post de WordPress.
Microsoft perd le contrôle de son propre service de tuiles pour Windows. C'est ce qui s'appelle une tuile.
Facebook a non intentionnellement récupéré les contacts e-mail de 1,5 million d'utilisateurs.
Apple qui échange sous garantie de faux iPhones contre des vrais.
Ah, ça c'est bon ça.
C'est pas mal hein.
Oh, les données personnelles d'une centaine d'agents de FBI dérobées.
Un trou dans la messagerie sécurisée gouvernementale CHAP basée sur Riot. Mais le trou était bouché quand même déjà.
Une police de caractère uniquement lisible par les humains pour contourner les robots anti-spam qui échangent des lettres visuellement.
Firefox activera une fonctionnalité permettant de traquer les clics sur des hyperliens.
Facebook embauche le co-auteur du Patriot Act comme conseil général.
La CIA accuse Huawei d'être financé par l'armée et le renseignement chinois.
Oh lol.
J'y crois pas. Nintendo impose le retrait de la publication d'un portage non officiel de Super Mario Bros. Qui avait nécessité 7 ans de développement. Nintendo, pas fan du fanart ?
Ouais, un portage sur C64 en plus.
Ah, en plus, ouais.
Ouais. Les enfants d'un député européen irlandais utilisent son affiche de campagne pour contourner la reconnaissance faciale et accéder à son ordinateur portable.
Ah, génial !
Un adolescent porte plainte contre Apple après avoir à tort été reconnu et arrêté pour vol dans des Apple Store.
Des chercheurs se rendent invisibles à la reconnaissance de visage d'une IA grâce à de simples pancartes montrant une foule.
Ouais, portées au niveau du nombril par là.
Ah, putain.
Quelqu'un devinait les clés privées Ethereum pour détourner ses comptes à son profit.
iFixit s'autocensure après que l'analyse du Galaxy Fold montre ses fragilités.
Un trou dans les puces Qualcomm, des millions d'appareils Android exposés.
Le hub Docker aurait fuité des données de 180 000 utilisateurs.
C'est rien quoi.
Une trottinette piratée qui insulte ceux qui la louent.
Ah bah oui.
Elle pourrait au moins dire « Sale capitaliste, t'as pas honte de laisser un type sous-payé me recharger la nuit ?»
Non, d'ailleurs, ouais, je crois qu'elle dit des choses assez salées.
Non, c'est pire, ouais.
Une faille dans de nombreux clients mail permet de falsifier la signature GPG des courriels ou en tout cas les faire apparaître comme authentiques.
Un problème de certificat qui désactive des extensions Firefox, dont uBlock Origin. On avait oublié à quel point le web sans bloqueur de pub était juste inutilisable. Alors, ça a été corrigé depuis.
Oui, mais c'est
pensez à mettre à jour.
Je me suis fait avoir, ça m'a fait très peur d'un coup.
C'est bizarre.
Une panne chez Netflix qui l'a rendu inaccessible à de nombreux Français. BitTorrent n'aurait, lui, pas été affecté.
Des dépôts GitHub privés rançonnés par des pirates qui menacent de publier les sources qu'ils contiennent.
Voilà, c'est tout pour les fails du mois.
C'était bien agréable. Tout de suite, faisons une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour le terminal.
C'est un medley de chiptune, ça.
Mais oui, c'était une musique issue de la démo Rivalry, donc une démo sur Commodore 64, GP Banzai Sensor. Donc la musique, c'est de Tsinsen. Nous allons passer au sujet du jour.
Le sujet, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, bah oui, donc c'est moi qui parle, haha.
Hey, oui, c'est toi qui parles cette fois.
C'est moi qui parle.
C'est toi qui parle.
Et du coup, elle me fait des oreilles. Donc, le terminal, oui, je me suis dit, tiens, même Microsoft se met à faire un terminal potable sous Windows, donc on va vous parler un peu du terminal. Parce que tout le monde entend ce mot-là, mais d'où ça vient, ce mot, tout ça. D'abord, le terminal originel, la console. À l'origine, l'ordinateur interagissait avec l'humain, avec des cartes perforées, des lumières clignotantes et des interrupteurs. Mais bon, c'était pas très pratique. Puis rapidement, on a tenté de rendre l'interaction entre l'homme et la machine plus pratique.
Ah ouais, ils ont fait comment ?
Bah, par l'ajout de périphériques d'entrée-sortie.
Oh !
Il permettait aussi de déporter l'accès aux ordinateurs volumineux dans d'autres pièces, voire d'autres bâtiments. Un des premiers appareils utilisés fut le téléscripteur. On parle également de téléimprimeur ou télétype, TTY en notation abrégée, donc TTY. Et d'ailleurs, la balise TT du HTML, utilisée pour indiquer du code affiché avec une police à largeur fixe, fait référence à cet appareil, justement. Cet appareil, doté d'un clavier et d'une petite imprimante, permettait de dialoguer avec un autre appareil du même type par le réseau Telex. Il était aussi utilisable donc pour dialoguer avec les ordinateurs, dont les logiciels ont donc évolué pour inclure ce concept, en gardant le nom abrégé en TTY donc. On tapait des commandes au clavier, puis l'ordinateur envoyait le résultat qui était imprimé sur un ruban ou une feuille. Le terme de terminal vient du fait que l'équipement était situé au bout d'un réseau de communication, ou en tout cas au bout d'un câble, et c'était donc l'équipement terminal. Ce vocabulaire est d'ailleurs toujours employé pour les autres équipements en bout de réseau, comme les box internet, on dit que c'est un terminal internet. Et puis on a rapidement ajouté un écran cathodique à l'époque, hein, parce que les écrans LCD, c'était pas encore ça, dans la machine pour obtenir le terminal tel qu'on le voit sur les photos du siècle dernier. Bah oui, c'était déjà le siècle dernier, qui permettait d'afficher instantanément le résultat, enfin en tout cas bien plus rapidement que d'attendre que l'impression se termine. Il y eut de nombreuses marques et modèles de terminaux, et certains ont marqué durablement l'histoire, au point qu'ils existent encore dans toutes les distributions Linux sous forme virtuelle, par exemple le VT100 de DEC. Il y a aussi un terminal que les Français ont bien connu, le Minitel. Ah, il faudrait qu'on fasse un sujet rien que sur le Minitel, d'ailleurs.
Oui, ça c'est une bonne idée.
Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec.
Oh que oui, voilà. Et qu'on peut faire encore.
Et oui. Alors donc, bon, on a un terminal, et puis, après on va rajouter des trucs. Alors on a les séquences d'échappement. Alors au début, les premiers terminaux... échappe. Les premiers terminaux se contentaient d'imprimer les caractères que l'ordinateur lui envoyait. En gagnant en fonctionnalités, il a fallu ajouter des moyens d'utiliser ces fonctionnalités supplémentaires. Sauf que le lien entre l'ordinateur et le terminal est resté limité à l'envoi de caractères, ou plutôt des valeurs numériques sur 8 bits, puisque c'est ainsi qu'ils sont codés, ces caractères. L'ordinateur, lui, il ne connaît que des nombres. C'est triste. Hein. Donc dans ce cas, on utilise des codes numériques qui sont réservés à des caractères non imprimables pour indiquer que ce qui suit n'est pas du texte à afficher, mais une commande à interpréter. On a donc des caractères de contrôle qui étaient déjà utilisés, par exemple, pour interrompre la transmission de l'information, dans le cas où l'imprimante était trop lente, par exemple, et puis la reprendre ensuite. On a aussi défini un code pour interrompre une commande qui prenait trop de temps. Ça, c'est le caractère qui en ASCII a le code 3, et qui est obtenu en appuyant sur CTRL et C. Donc CTRL C. Le système d'exploitation, lorsqu'il reçoit ce caractère, interrompt donc le programme en cours, sous Unix, par exemple, en lui envoyant le signal SIGINT. Et puis l'affichage, pour l'affichage, on a défini des séquences entières de caractères. Là, le caractère habituellement utilisé pour déclencher ces séquences est donc celui dont le code ASCII est 27, ou 033 en octal, et qui correspond à la touche ESC, soit Escape en anglais, ou Échappement. Ainsi, on crée ce que l'on appelle des séquences d'échappement. Chaque fabricant a proposé ses propres extensions avec ses propres codes et syntaxes, parce que pourquoi se mettre d'accord ? Ainsi, les terminaux compatibles VT100 acceptent les mêmes séquences que le VT100 originel et afficheront par exemple le texte en gras lorsqu'il est précédé des caractères échappe, crochet ouvrant, 1, M. Voilà, c'est une séquence pour mettre en gras. Dans l'autre sens, on utilise les séquences d'échappement pour faire passer de l'information auxiliaire, par exemple la position de la souris, mais aussi les flèches du clavier qui n'ont pas toujours de code ASCII déterminé. Parfois, lorsque le terminal ne comprend pas une séquence, parce que l'ordinateur pense qu'il s'agit d'un autre modèle, se retrouve partiellement affiché à l'écran. C'est pour ça que des fois, vous avez tout plein de trucs bizarroïdes à l'écran. Parfois, c'est à cause de ça. Voilà, c'est parce que l'ordinateur ne comprend pas. Lorsque les ordinateurs sont devenus plus petits, les mini puis les micro-ordinateurs, ils ont alors intégré la console dans leur propre boîtier, mais ont gardé le vocabulaire et l'interface logicielle que les applications utilisaient. Sous GNU Linux, par exemple, on a même des consoles virtuelles accessibles par CTRL-ALT-F1, F2, etc. jusqu'à F6. En général, c'est configurable. Et qui simulent plusieurs écrans et claviers différents. Elles sont manifestées aux applications par des devices, /dev/tty1, /dev, etc. jusqu'à tty6. Et sous DOS, on a aussi une console, même si elle est moins souvent mentionnée. Et le périphérique s'appelle CON2. Donc c'est con, con. Et c'est pour ça que des fois, il y a des bugs quand on met un fichier qui s'appelle con sur un système de fichiers sous DOS, ça fait planter Windows des fois.
Ah, elle est un peu con.
Elle est un peu, voilà. Et les séquences en ZI permettent aussi de changer la couleur et d'autres attributs du texte. D'ailleurs, la séquence pour mettre en gras est identique à celle du VT100. Ils ne se sont pas trop foulés là-dessus. Ensuite, on a GetTTY et puis Login, par exemple. Alors, sur Unix, qui est dès l'origine un système multi-utilisateur, chaque terminal doit donc pouvoir être utilisé par une personne spécifique qui doit s'identifier sur le système. C'est pourquoi le système lance la commande GetTTY, donc G-E-T-T-Y, donc c'est un jeu de mots, GetTTY, sur chaque device, et aussi sur les ports série éventuellement, qui va attendre qu'une connexion arrive. Lorsque la connexion est détectée, cette commande-là, elle va lancer une autre commande qui s'appelle login, qui justement va permettre de s'authentifier par son login et mot de passe. Et lorsque ça s'est fait, si on ne s'est pas trompé sur le mot de passe, la commande login, elle va exécuter le shell, qui est une commande presque comme les autres, il faudra qu'on en parle un jour.
Presque comme le coquillage.
Voilà, mais qui permet de lancer d'autres commandes interactivement. C'est ce qu'on a fait, qu'on appelle aussi l'invité de commande. Ça, c'est le terminal le vrai. Mais depuis, avec l'arrivée des interfaces graphiques, on aurait pu croire que le terminal allait disparaître.
Mais oui.
Pourtant, il reste de nombreuses situations où vous tapez une instruction précise et plus pratique que de choisir visuellement dans une liste très limitée d'options. Et puis, les gens ont tendance à garder leurs habitudes. Ils ont donc écrit des programmes pour simuler le fonctionnement des terminaux qu'ils utilisaient avant. C'est ce qu'on appelle des émulateurs de terminaux.
Trop fort.
Voilà, et donc quand on dit terminal, en fait, on parle d'émulateurs de terminaux en général. Parce qu'en général, c'est de ça qu'on parle. Au lieu d'afficher sur un écran, ils affichent la même chose, mais dans une fenêtre de l'interface graphique. Et permettent d'en lancer autant qu'on veut, et aussi d'utiliser des applications graphiques en même temps. Donc c'est donc à ça que l'on fait référence lorsqu'on parle d'ouvrir un terminal sous Linux et même sous Windows. Il s'agit de lancer un logiciel qui va simuler le fonctionnement d'un appareil vieux de 40 ans pour pouvoir interagir avec un programme non graphique. C'est ça, en gros. Voilà. Alors sous Windows, quand on lance par exemple cmd.com ou des applications, Windows va lancer automatiquement cet émulateur de terminal pour afficher le résultat. Et puis sous GNU Linux, on peut utiliser l'émulateur de terminal de son choix, et il y en a plein, il y en a plusieurs dizaines. Et même sous macOS, il y en a plusieurs, il n'y a pas que celui par défaut. La plupart des émulateurs de terminal permettent de customiser les couleurs utilisées, par exemple. Donc il y a même des thèmes tout prêts pour changer les couleurs,
c'est
sympa.
Trop fort, tu peux mettre des couleurs.
Ouais, et il y a même, alors j'ai trouvé un truc qui s'appelle Cool Retro Term, qui simule l'affichage des vieux tubes cathodiques à coup d'effet de OpenGL. Donc on peut avoir un terminal sous Linux qui ressemble à un vrai terminal, un vrai VT100 avec le tube bombé et tout.
Est-ce qu'il éclate autant les yeux?
Et il éclate pas mal les yeux aussi, ouais.
Ah, trop fort.
On peut aussi, par exemple, avoir un faux VT100 au poignet, un wearable. Et puis, il y en a même qui s'amusent à cacher des Raspberry Pi avec un écran LCD dans un terminal de l'époque. On peut aussi trafiquer un vieux terminal pour afficher d'autres caractères que l'alphabet latin, en changeant les ROM du terminal pour lui faire afficher autre chose. Par exemple, l'alphabet d'une langue de Star Wars. Enfin, y a des trucs vraiment bizarres, des fois, avec les enfants. De plus, il est possible, bien sûr, de se connecter à distance sur une autre machine pour obtenir donc un terminal distant, c'est-à-dire faire comme si on était sur place face à un terminal sur la machine distante. On revient à l'idée de départ qui est d'avoir un terminal à distance.
À distance, oui, c'est clair.
Donc, il y a plusieurs outils pour ça. Il y a SSH, bien sûr. Avant, il y avait Telnet, mais c'est pas très sécurisé. Puis, il y a d'autres trucs comme Teammate, par exemple, qui permet aussi de partager un terminal avec une autre personne. Et puis, on peut même multiplexer des terminaux et fractionner l'écran en plusieurs terminaux séparés. Donc, c'est comme des fenêtres, mais dans le terminal lui-même. Même pour le Minitel, il existe des émulateurs et même des simulateurs. Donc, on peut faire semblant. On mettra plein de liens sur notre blog www.fr, bien sûr. Il y a plein de trucs sympas qu'on peut faire dans un terminal. On peut même regarder un film.
Oh, trop fort.
Ouais, il y a plein de trucs. Alors, des films qui ont été codés exprès, donc avec des caractères tout fait à la main et tout. Et puis, il y a même des bibliothèques. Il y a la LibA et la LibKK aussi, qui est utilisable même dans VLC. Donc, avec VLC, vous pouvez regarder un film dans un terminal. Ça sert absolument à rien, mais voilà. Ouais.
C'est génial.
Ouais. Alors, il y a aussi des extensions graphiques. Ça, c'est peu connu, mais les terminaux ont évolué pour permettre l'affichage d'images multicolores à l'écran, bien avant que les serveurs X et autres interfaces graphiques arrivent. En utilisant toujours des séquences d'échappement spécifiques pour envoyer les données, il est donc possible d'afficher autre chose que des caractères. Et aujourd'hui encore, certains écrivent des logiciels pour tirer parti de ces extensions, comme LSIX qui affiche des vignettes en listant les images dans un répertoire. Donc c'est très amusant. Et puis bien sûr, le terminal s'est utilisé surtout pour le shell, mais ça on en reparlera dans un prochain numéro, je pense, parce que c'est tout un monde. Et puis bah, on vous mettra encore plein d'autres liens parce qu'il y a plein de trucs vachement amusants qu'on peut faire. On peut même faire avoir un synthé dans le terminal, enfin de tout plein de trucs vraiment marrants.
Merci Mémumen pour ton sujet du jour qui était Merci. Bien agréable. Petite pause pour se retrouver pour l'agenda. Petit extrait de la musique Dub & Wax de Logicoma. Donc c'est une musique issue de Wobble qui a fait une musique pour illustrer une intro 64K diffusée à la révision 2019.
Je me disais que j'avais déjà entendu ça.
Et oui, tu vois comme quoi hein, mes références sur Poète.net pour ceux qui aiment bien.
Ah, t'as pas vu bah, moi j'ai regardé les flux parce qu'on pouvait voir en direct.
Aussi, bah, on était tous connectés d'ailleurs, je te signale.
Tous dessus,
on
bah
était
voilà.
Tous là.
J'ai fumé mon forfait 4G.
Et puis, passons à l'agenda.
Eh oui, alors qu'est-ce qu'on a à l'agenda?
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
On a Open Bidouille, le Fab Lab de Cré qui vous propose un espace dédié à l'expérimentation, au projet collectif, à l'échange de savoir et de savoir-faire. Ouvert à tous à partir de 16 ans, entrée libre tous les jeudis de 18h à 21h au 8 Fab Lab, donc 8 rue Courcommer à Cré.
Permanence numérique. Vous avez des questions, un problème avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette? Besoin de petites astuces informatiques? Vous êtes les bienvenus aux permanences numériques pour que l'on trouve ensemble des solutions ou astuces. Donc c'est encore une fois au Fab Lab, 8 rue Courcommer à Cré.
Alors je me suis peut-être gouré sur le pad parce que je vois qu'il y a médiatique publique, donc ça doit être à la médiathèque. Le lien c'est médiathèque, il y a un problème dans le... copier-coller, j'ai dû copier-coller en plein milieu. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le Fab Lab.
À Valence ?
Ouais, donc ça c'est à Valence, ouais.
Donc la permanence numérique à la médiathèque publique et universitaire de Valence.
C'est tous les samedis de 10h à 12h.
Eh bien, nous allons rétablir la vérité avec l'astrologique. Que vois-tu dans la boule de cristal ? Sysadmine, que dit un exorciste pour chasser un stockage en réseau merde... Un réseau moderne.
Un réseau merderne.
Va des rétros,
Satanas. Libriste, slash proc, c'est net.
Hacker, je t'ai acheté un nouveau voyage. Pour te faire plaisir, je partirai à ta place.
Microsoft, ça sert quoi, DOS?
Non, slash... Ça sert DOS. Ça sert DOS.
Ah oui, ça sert DOS, slash Iromen.
Électronicien, j'ai croisé Edgar Allan Poe et il m'a mis au courant.
Procrastinateur, quand on aime, on ne bouge pas.
Eh bien, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve au sujet qu'on a trouvé, parce qu'on va parler de Minitel.
Ah ouais, t'as envie de faire parler de Minitel?
Mais oui.
Ah, ben on verra bien.
Mais oui.
Allez, à bientôt.
À bientôt la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye.